La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En dehors du côté spectaculaire de certaines des robes créées par Marie dans le passé, la robe en sorbet, la robe en calicotome et romarin, la robe en gorgone de mer que paraient des colliers d'oursin et des boucles d'oreilles de Vénus, Marie s'aventurait parfois en marge de la mode sur un terrain expérimental proche des expériences les plus radicales de l'art contemporain. Menant une réflexion théorique sur l'idée même de haute couture, elle était revenue au sens premier du mot couture comme assemblage de tissus par différentes techniques, le point, le bâti, l'agrafé ou le raccord, qui permettent d'assembler des étoffes sur le corps des modèles, de les unir à la peau et de les relier entre elles pour présenter cette année à Tokyo une robe de haute couture sans couture. Avec la robe en miel, Marie inventait la robe sans attache, qui tenait toute seule sur le corps du modèle. Une robe en lévitation, légère, fluide, fondante, lentement liquide et sirupeuse, en apesanteur dans l'espace et au plus près du corps du modèle, puisque le corps du modèle était la robe elle-même. Ainsi s'ouvre nu le quatrième et dernier volet de l'ensemble romanesque MMMM, qui apparut en septembre et regroupe les quatre volumes du cycle de Marie de Jean-Philippe Toussaint, soit quatre saisons de la vie d'une créatrice de mode, Marie, Madeleine, Marguerite, de Montalt. Les collections de Marie n'existent pas ou que dans l'imagination de son auteur et de ses lecteurs, c'est-à-dire qu'elles existent bien, en fait, au point où elles ont été exposées à Bruxelles, aux Beaux-Arts, dans le cadre d'une exposition sur la mode belge. Est-ce d'ailleurs autre chose que cela, la mode ? Un rêve ? C'est l'une des questions que pose l'anthropologue Julia Mencitieri dans un livre qui vient de paraître. Elle est aujourd'hui l'invitée de La Suite dans les idées. Julia Mencitieri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je le disais, anthropologue. Vous avez mené des recherches à l'École d'études en sciences sociales et vous êtes aujourd'hui chercheuse au laboratoire interdisciplinaire d'études urbaines de l'Université libre de Bruxelles. Vous enseignez aussi à Parsons, à Paris, dans la branche parisienne de cette prestigieuse école américaine. Et vous publiez donc à la découverte une enquête anthropologique dans les coulisses de l'industrie de la mode, titrée avec cette expression « le plus beau métier du monde ». C'est une enquête originale parce que, à la différence de beaucoup de travaux sur la mode, elle s'attache d'abord à ce que vous appelez la transmutation, c'est-à-dire non pas à la fabrication dans les usines du prêt-à-porter ou même dans les ateliers de la haute couture, même si vous en parlez un peu, mais plutôt à tous ceux qui sont occupés, affairés à faire en sorte que ces vêtements fabriqués quelque part arrivent dans au moins l'imagination de ceux qui éventuellement les achètent. Or, la mode, c'est peut-être d'abord et avant tout cela, cette chaîne de fabrication qui est en grande partie une chaîne symbolique et pas seulement économique, ou en tout cas le symbolique est étroitement articulé à l'économique, Julia Mencitieri.
Oui, c'est exact, c'est-à-dire que je trouve qu'il est très intéressant dans l'industrie de la mode, c'est précisément de regarder cette imbrication-là, c'est-à-dire l'imbrication de la production matérielle que vous avez citée et de la dimension immatérielle qui est fondamentale. Je dirais qu'elle est fondamentale dans le capitalisme contemporain en général et on peut observer cette imbrication-là de manière saisissante dans la mode. Car cette notion de rêve que vous avez évoquée déjà par la citation littéraire en ouverture, c'est une notion qui est un peu le fil conducteur du livre dont nous parlons aujourd'hui et qui est une notion qui est sortie, c'est pas moi qui ai mis cette étiquette-là, si vous voulez, c'est quelque chose qui est ressorti de manière saisissante, constante, transversale durant toute l'enquête. Lorsqu'on parle de mode, on parle de rêve. Ce qui veut dire que la dimension imaginaire est fondamentale. Et c'est bien cette dimension imaginaire-là qui permet les gains, la production de richesses monétaires si importantes que la mode produit.
Alors le rêve, c'est ce qui permet à une collection qui n'existe pas, sauf dans l'imagination d'un romancier, d'exister vraiment en fait, ce qui ressemble à beaucoup d'égards à des collections qu'on ne voit que imprimés sur les pages des magazines et qui font des impressions durables dans l'esprit de ceux qui les regardent et qui n'achèteront jamais ces vêtements. Mais c'est aussi le rêve qui renvoie, par exemple, à tous ceux qui exercent dans cet univers, dans ce monde de la mode dont vous parlez, des petits métiers pour lesquels ils sont très mal rémunérés, pour lesquels ils se trouvent dans des situations de grande précarité, mais qu'ils acceptent de faire, ou plutôt qu'ils vivent même sur le mode de la vocation, précisément parce qu'ils avaient toujours rêvé de travailler dans la mode ou dans le luxe.
Absolument. Ben, la dimension de rêve, en réalité, elle se décline de manière très différente dans la mode. Pour ce qui concerne les travailleurs que vous mentionnez et auxquels je me suis intéressée, donc les travailleurs, on va dire, créatifs, c'est un label très vaste qui ne désigne rien de très précis, mais par là, j'entends effectivement les travailleurs qui ne s'occupent pas de la production industrielle, en tout cas, et qui bénéficient d'une certaine valorisation sociale. Eh bien, dans les entretiens, il est ressorti que les motivations qui amenaient ces travailleurs-là à rentrer dans ce monde, à désirer de non plus être spectateurs ou consommateurs, mais de participer à la fabrication de ces produits qui étaient rêvés, était effectivement cet imaginaire dont vous parlez, de beauté, de luxe. C'est une représentation qui est à l'origine de l'accès dans ce monde-là, mais qui néanmoins reste, qui se décline, se change, évolue, mais disons que le rêve est quelque part le moteur de la mode à différentes manières et dans différents segments de cette industrie, et il est nécessaire pour que le système tienne.
Oui, parce que c'est ça qui permet d'expliquer pourquoi des gens acceptent finalement si longtemps parfois de travailler dans des conditions qu'on ne soupçonne pas quand on ne connaît pas ce monde. Vous montrez à quel point non seulement les petits métiers, les métiers très subalternes dans la chaîne de production, mais aussi des métiers au cœur de la fabrication du rêve, des métiers extraordinairement importants et qu'on imagine de l'extérieur comme très valorisants, mais aussi très valorisés, ne le sont pas valorisés, au moins en termes de rétribution financière, par exemple. C'est-à-dire que vous nous expliquez que des gens qui occupent des postes aussi importants que ceux de directeur artistique même ne trouvent pas toujours tout à fait leur compte de ce point de vue-là. Ils le trouvent autrement.
Mmh, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la valorisation existe. Et c'est bien une des raisons pour lesquelles les travailleurs restent dans la mode, c'est-à-dire qu'il y a un regard social depuis le monde dehors, je dirais, qui est désirant. C'est désirable d'être dans cet univers-là, car la mode est, comme j'essayais de le montrer, quelque part le rêve du capitalisme. Elle combine tous les éléments du capitalisme contemporain, beauté, pouvoir, argent, dans les représentations. Donc, la rétribution existe, mais elle est souvent pas monétaire. Les directeurs artistiques des grandes maisons sont bien rétribués, mais il se peut effectivement que des stylistes qui travaillent dans des studios de grandes maisons de couture ou de marques très luxueuses...
Et qui jouent un rôle décisif dans l'aspect créatif de ces maisons.
Absolument. Oui, qui dessinent matériellement les robes, parce que les directeurs artistiques souvent sont à l'origine, à l'impulsion, à l'origine de l'idée. Mais ceux qui dessinent, ce sont souvent, sauf dans le cas de la haute couture, où c'est souvent vraiment le directeur artistiques qui dessinent, ce sont les stylistes qui produisent matériellement les habits que nous voyons dans les podiums. Et il peut s'avérer que ces personnes-là soient très mal rémunérées et qui travaillent, évoluent dans des conditions professionnelles très peu désirables. Néanmoins, il existe ce décalage et c'est bien ça qui m'a amené à m'intéresser à la mode, hein, car la mode permet de saisir des dynamiques, des tensions que l'on voit dans le monde social en général, en tout cas dans les grandes villes de l'Occident riche pour faire un, et c'est-à-dire cette scission quelque part entre le statut social, le statut symbolique et la condition matérielle, le travail, l'argent.
D'ailleurs, vous faites le parallèle, vous rapprochez cet univers économique d'autres qui semblent aux antipodes, mais où on observe les mêmes formes d'articulation entre symbolique et économique. Vous parlez des gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire en disant, au fond, il y a le même type d'investissement personnel dans leur emploi. C'est parce qu'ils travaillent dans un secteur particulier qu'ils acceptent un certain type de conditions de travail que probablement ils n'accepteraient pas dans un autre secteur.
Absolument. C'est-à-dire que mettre ces ces deux mondes-là en parallèle, ça peut paraître vraiment extrême et provoquant. Mais en réalité, évidemment qu'ils sont très différents. Différents par les logiques d'implication. Ce ne sont pas les mêmes raisons qui font que l'on s'investit et évidemment, ce ne sont pas des secteurs qui produisent...
Les mêmes rétributions
non plus.
Symboliques,
ni économiques. Mais néanmoins, si vous voulez, si on devait schématiser, dans la mode, on va faire le don de soi, on va renoncer à toute une série de choses, dont le droit de travail, etc., pour amour de la beauté, de l'art, de l'expression de soi, on peut décliner ça. Alors, que dans l'économie sociale et solidaire, on va faire le don de soi pour les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les employeurs, quelque part, profitent d'une certaine manière de ces logiques d'implication-là pour ne pas payer les travailleurs.
Alors, on fait le don de soi pour l'amour de l'art, de la beauté, mais aussi, par exemple, et ce sont des situations saisissantes que vous décrivez bien, pour le plaisir qu'il peut y avoir pour ces gens à passer une grande partie de leur journée, pas toute, mais de temps en temps, dans un palace, par exemple, pour travailler dans des conditions de travail particulières et se retrouver le soir chez soi, devant vivre en colocation dans un tout petit appartement, finalement aux antipodes de ce palace.
Absolument. C'est un peu ce que j'ai appelé la précarité de l'entre-deux. C'est-à-dire que autant on peut, à travers la mode, identifier des constantes qui appartiennent, qui caractérisent les industries culturelles et créatives en général, mais je trouve que ce qui est peculière à la mode est cette dimension de la coexistence de deux dimensions extrêmement opposées. C'est-à-dire le luxe extrême dans lequel on travaille, qu'on produit, mais non seulement on produit, dans lequel on circule,
on évolue par intermittence.
Oui, mais par intermittence. Et puis, la réalité concrète et matérielle qui est celle des courses au Franprix, des factures de téléphone à payer, du petit studio dans lequel on dort.
Du bricolage permanent, ça ressort aussi des récits que vous faites. Parce que je voulais en profiter pour dire que, à la fois, votre livre est une contribution théorique importante à cette réflexion globale sur les industries créatives dans des sociétés mondialisées. Il y a toutes ces dimensions, il y a aussi une perspective historique sur laquelle peut-être on reviendra, mais ce n'est pas qu'un livre théorique, c'est d'abord et avant tout une enquête anthropologique. Et donc, vous faites le récit de situations qui sont saisissantes et qui nous font nous retrouver au milieu de ces scènes de travail de ce monde de la mode que l'on ne voit jamais. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'organisation d'un shooting? Et vous nous amenez avec vous dans ces lieux où vous avez vous-même, et vous faites part de votre étonnement d'ailleurs, été choqué, surprise par ce que vous voyez, Julia Mancy-Thierry.
Oui, bien sûr, c'est un monde que moi, j'ai découvert, que je ne connaissais pas, ou je le connaissais que par les images qu'il produit, comme la plupart des gens. J'ai essayé dans le livre de restituer aussi cette déconstruction-là que j'opère dans le livre, et aussi la déconstruction que moi-même j'ai vécue en regardant la matérialité de la production du rêve.
Comment on fabrique une image de mode, par exemple?
C'est ça, exactement. C'est qui les travailleurs qui sont à l'œuvre? Comment l'image, ces temporalités, si contrastée entre celle de l'immédiat du clic de l'appareil photo, de la permanence sur les pages du papier glacé ou de la circulation sur les écrans du monde entier. Qui produit ces images-là et comment? Qui sont les travailleurs impliqués? Alors, il y a des assistants, maintes types d'assistants, plateaux, photos, images. Il y a des coiffeurs, des assistants coiffeurs, des retoucheurs, des make-up artistes, des set design, toutes des professions que moi, je ne connaissais même pas.
Il y a des stylistes au sens où ce sont des gens qui ont l'idée générale du shooting, la situation, qui choisissent les vêtements, qui choisissent éventuellement les modèles, qui choisissent les photographes qui vont travailler.
Exact. Disons que les figures un peu de pouvoir, si je peux utiliser cette expression, dans la situation du shooting de mode, sont le styliste, qui est un peu comme un metteur en scène, je dirais, d'images de mode, et le photographe. Et selon la position dans la hiérarchie de la mode de l'un ou de l'autre, c'est l'un ou l'autre qui va dominer, on va dire. Mais ce sont les deux figures les plus valorisées, celles qui décident l'imaginaire, le corps.
Le corps, c'est très, très important. Par exemple, quand vous faites contraster le corps d'une mannequin tel qu'on le voit sur les pages des magazines, tel que vous le connaissiez en fait de l'extérieur, et puis le corps du mannequin dans la coulisse, pendant ou avant le maquillage, ou même quelques millisecondes avant le clic de l'appareil photo qui est un corps radicalement différent.
Absolument. Ça, c'est un dispositif extrêmement puissant que moi-même j'ai subi tout en étant dans cette posture d'anthropologue qui essaye de... l'anthropologue travaille lui aussi avec son corps et son expérience. Hein, donc, ça passe par là aussi, mais c'était un décalage vraiment saisissant. Comment un corps qui pouvait me paraître touchant,
banal,
attachant, banal,
auquel
je n'attribuais pas forcément une valeur esthétique particulière... même des fois choquant par sa maigreur ou trop jeune ou je ne sais pas quoi, eh bien, une fois tout l'attirail, l'apparat, le dispositif du rêve en place, eh bien, ce même corps devenait à mes yeux, sinon désirable, mais en tout cas hypnotique. Il y avait quelque chose de fascinant.
Et de capturer.
Et de capturer. Alors, c'est ça que j'ai aussi essayé de décrire, c'est que ce rêve-là dont on parle, eh bien, il n'est jamais figé. Il est figé sur les pages, mais même pour les mannequins, c'est un rêve qui est performé. Dans l'instant, ce n'est pas un rêve qui est incarné en permanence. Les mannequins même étant, pour la plupart, dans des conditions de précarité extrême, et là, pour le coup, sous différents points de vue. Donc voilà, dans ce sens-là, le rêve est le moteur de la mode, parce que c'est quelque chose vers lequel on tend, pour vendre, pour tenir, pour que l'on désire, etc.
En ouverture de l'émission, je citais cet extrait de Jean-Philippe Toussaint et ce personnage qu'il a inventé, qu'il a accompagné pendant 4 romans d'une créatrice de mode, Marie. Vous aussi, vous avez dans votre livre des personnages. Mm-hmm. Vous racontez une histoire. Alors, une anthropologue a toujours besoin d'informateurs, de sources, de gens qui vont vous initier au milieu. Et il y a ce personnage en particulier très important pour vous, qui vous a fait découvrir cet univers, rencontrer d'autres personnages. Peut-être vous pourriez en dire deux mots.
Mia, qui est mon cicéron, comment on dit, elle m'a conduite quelque part. Elle m'a vraiment prise par la main. Elle est aussi à l'origine de cette enquête quelque part, parce que moi, j'avais des interrogations générales relatives justement à ce décalage que j'observais dans le monde social qui m'entourait entre la précarité, le statut social aussi des chercheurs, des gens, des travailleurs du cinéma. C'était ça qui m'interpellait. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui faisait que dans le monde que nous habitons, spécialement ici à Paris, il y a tous ces gens-là qui travaillent dans les industries culturelles et créatives. Moi, je disais que j'étais doctorante à l'EHSS avec Michel Lagier, c'était toujours hein. Et puis, en fait, j'avais pas de bourse. Moi-même, je galérais à ma manière, comme tous mes collègues.
Pas très différent du monde de la mode.
Absolument pas. Voilà, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cet aspect-là. La mode, elle est exceptionnelle. Parce que elle exagère, elle pousse à bout, c'est une loupe. Mais ce qu'on y observe, ce sont les dynamiques qui caractérisent une certaine partie de la production capitaliste. Pas toute, parce que le capitalisme a aussi besoin de travail en usine classique, évidemment. Mais pour revenir à Mia, donc je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un ami, et j'ai découvert que malgré ses habits cossus, sac Prada, chaussures Chanel, ses dîners au Ritz, etc., eh bien, et ses voyages en business class, elle était dans une précarité financière assez importante. Ça ne veut pas dire qu'elle ne gagnait pas d'argent toujours, mais que des fois oui, des fois non, on ne savait pas quand et comment et combien, et qu'elle n'avait pas de sécurité sociale, toute une série de choses, et que sa condition n'était pas du tout exceptionnelle. Bien au contraire, elle était diffuse, très diffuse dans le milieu de la mode. Du coup, je lui ai demandé si je pouvais la suivre dans sa vie professionnelle, chose qu'elle a acceptée et que j'ai faite. Donc, je suis allée sur tous les shootings où je pouvais aller, parce que ce n'était pas toujours le cas. J'ai habité avec elle, j'ai passé du temps avec elle. Évidemment, il y a un lien d'amitié qui s'est tissé. Et puis, j'ai rencontré aussi plein d'autres gens par boule de neige ou par d'autres portes d'entrée. Mais c'est vrai qu'elle, elle a été un peu celle qui m'a ouvert les portes de ce monde.
Alors c'est du coup le personnage principal du plus beau métier du monde, votre livre, d'enquête anthropologique sur la mode. Mais on y croise aussi d'autres personnages. On croise par exemple ce styliste qui a longtemps, très longtemps, été le bras droit de Karl Lagerfeld avant de quitter la maison pour laquelle il travaillait, de rebondir, mais pour qui les choses sont devenues compliquées par la suite. Parcours là aussi assez intéressant, en ce qu'il est exemplaire d'une autre forme de précarité à long terme du secteur.
Je dirais qu'il est surtout exemplaire des transformations du capitalisme et des transformations de l'industrie de la mode.
Dans les années, à partir des années 1980-90.
Même 2000, avant, 2000. Parce que lui, il commence dans les années 60. Il commence à la chambre syndicale, qui s'appelait même pas comme ça, je pense. Au début, il me raconte qu'ils étaient 5 en classe. 5. Aujourd'hui, il y a 50 écoles à Paris qui produisent des centaines de travailleurs de la mode qui sont mis sur un marché qui est saturé pour la plupart des postes. Donc lui, il commence, il fait un stage chez Dior, il fait un stage chez Yves Saint Laurent, on lui offre des postes dans l'une et l'autre maison, après, il en a marre, il va à Rome, où il y a la Alta Moda, il travaille avec les plus grands couturiers, après il en a marre, c'est les années 80, nous rentrons dans le néolibéralisme, Milan devient un pôle de la mode, il travaille pour plein de marques qui sont très importantes, il a énormément d'argent, il fait et défait sa vie maintes fois, il décide d'aller à New York, toujours il raconte ça, j'allais avec mes dessins sous la main, je toquais à la porte, quelque chose qui ressemble à de la science-fiction aujourd'hui. Il regardait ses dessins et lui offrait un poste de styliste chez je ne sais pas qui, et puis au bout d'un moment, en fait lui il avait remplacé plusieurs fois Karl Lagerfeld. Il arrivait là où Lagerfeld partait et au bout d'un moment lorsqu'il se rend à New York, quelqu'un remarque encore une fois, saisit cette continuité d'univers esthétique, on peut dire, et lui propose d'être assistant de Lagerfeld qui lance à ce moment-là sa propre ligne. Et là commence une longue collaboration. Il a occupé différents postes. Il a aussi essayé de lancer ses propres marques. Ça n'a pas marché. Et c'est génial parce qu'il raconte ça en disant oui, on a mis 2 millions d'euros ici, 4 millions là, j'étais au Faubourg Saint-Honoré, c'est une amie millionnaire. Donc il y a ce côté-là qui est spectaculaire d'une certaine manière et que je ne peux pas dire s'il est exemplaire, mais ce qui est exemplaire, c'est de voir à travers sa trajectoire les transformations, les différentes phases du capitalisme, vraiment, et les transformations de son travail, de l'industrie de la mode, parce que lui, actuellement, il est sans emploi, au moment où il a décidé d'interrompre sa collaboration avec Lagerfeld, de son propre choix, disons que les portes pour lui se sont fermées.
Alors vous vous intéressez à ce type de trajectoire, de parcours, mais vous vous intéressez aussi à d'autres personnages, ceux par exemple des vendeurs qu'on va trouver dans les boutiques de ces marques, ou même ceux qui, déçus, n'arrivent pas dans les boutiques mais sont relégués dans ce qu'on appelle les corners des grands magasins, où là il y a aussi des formes de rêves et de désillusions, des gens qui vous expliquent qu'ils ont toujours rêvé de travailler dans la mode, et travailler dans la mode ça peut vouloir dire au fond être vendeur dans un magasin.
Absolument. Moi, je pense que ça, c'est une question méthodologique peut-être, mais il faut toujours aller regarder aux marges des mondes que l'on observe, et c'est bien aux marges que l'on comprend comment les choses fonctionnent.
Ça, c'est une leçon du grand Robert Park que vous citez à la
Absolument.
Fin du livre.
Ouais. Et donc, pour comprendre comment ce que j'appelle la surexposition, le désir marche, il faut aller bien voir à ces marges-là. Et c'était crucial. Parce que le parcours de Gilbert que j'annonce, que je croise par ailleurs à quelqu'un quand même qui dirigeait toutes les boutiques d'une grande marque de luxe, eh bien, les discours se croisent. C'est-à-dire que Gilbert, par exemple, son désir était énoncé tel que « je désire travailler pour le luxe, dans le luxe ». Il fait un parcours de combattant pour être embauché, je ne sais pas combien d'entretiens, questionnaires, etc. Il est enfin embauché. Il met en avant les avantages de ce travail, c'est-à-dire porter un costume de la marque et avoir 20% sur les biens de cette marque. Alors, la marque en question, les produits de base coûtent sinon un salaire, voire trois salaires de Gilbert. Donc, même s'il a 20%, ça reste d'une certaine manière inaccessible. Ce qui veut dire que les vendeurs sont quelque part des consommateurs manqués qui mettent à disposition de la marque leur capital social, symbolique. Il y a toute une... Dans le discours du chef de personnel donc, que j'énonçais avant, la personne qui s'occupait dans les ressources humaines, il y a toute une euphémisation de la vente. Il parle d'ambassadeur de la marque, il parle de rituel, il parle de valeur. Et il dit, nos vendeurs sont très amoureux de la marque. Et moi-même, je suis très fière de travailler pour cette marque-là. Donc, vous voyez bien comment ces imaginaires-là, ce désir, cette désirabilité traversent tout l'univers de la mode.
Dans cette enquête, vous vous intéressez aussi, Julia Mianzitieri, à évidemment à la haute couture, alors qui joue un rôle, notamment celui vis-à-vis de l'extérieur, de faire croire à une certaine permanence historique du secteur, alors que tout ce que vous montrez traduit l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un secteur économique, d'un secteur culturel qui est en mutation perpétuelle et rapide et accélérée probablement depuis les années 80-90, liée à des phénomènes qui la dépassent très largement, comme la mondialisation, comme le numérique aujourd'hui, la transformation des médias, de la publicité, toutes ces choses font que la mode change très vite, et ça s'est traduit ces derniers temps par des crises, par des départs, par des licenciements, par des claquements de portes de la part de créateurs. C'est l'une des choses sur lesquelles je voudrais qu'on revienne dans la deuxième partie de l'émission avec quelqu'un qui connaît bien la mode et qui l'observe au quotidien, Joseph Gosne, qui nous rejoindra pour la deuxième partie de la suite dans les idées. Mais avant ça, on écoute New Order.
Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
New Order, Lydia, voilà qui ne me rajeunit pas, un morceau de l'année de mes 20 ans, 1985. C'est vous, Joseph Gosne, qui avez proposé qu'on écoute ce morceau de New Order. Joseph Gosne, vous êtes directeur de la rédaction de Grazia, un hebdomadaire qui fait la part belle à la mode,
très belle, oui.
Mais à la mode et à la culture. Et vous êtes par ailleurs féru aussi de sciences sociales. Alors, il m'a paru naturel de vous demander de lire le livre de Julia Mianzitieri. Pourquoi New Order, Elegia?
New Order parce que c'est un morceau que j'ai entendu durant le tout dernier défilé de Raf Simons, qui est un créateur qui est cité dans le livre, son tout dernier défilé pour Dior, dont il a été le directeur artistique pendant 2 ou 3 ans. Julia parlait tout à l'heure de ce dispositif qui capture les images, qui capture le corps et le transforme instantanément. Et c'est vrai que la musique fait partie d'un autre dispositif que je vois assez régulièrement, qui est le dispositif des défilés. Et qui, là encore, est un moment de cristallisation, en tout cas de transformation des corps, et qui est souvent le premier moment où l'on aperçoit, quand on est spectateur, en tout cas journaliste, ou acheteur, ou en tout cas quand on fait partie de ce petit cénacle, où on voit les vêtements arriver et où l'on essaye d'en saisir le sens, l'histoire, ou en tout cas de comprendre la part de rêve dont parlait Julia tout à l'heure, et dont tout le livre parle. Et c'est vrai que cette part de rêve, une fois qu'on la voit écrite, elle est extrêmement présente. Et lorsqu'on entend un morceau comme celui-là, ce morceau de New Order, ça fait aussi rêver, ça fait partie de ce rêve-là. Et c'est-à-dire que voir à la fois les mannequins défiler sur un tempo, essayer de saisir en quoi la musique répond aux vêtements, etc. Et ce à quoi la musique vous renvoie, c'est-à-dire, vous parliez vous-même de l'année de vos 20 ans, ça renvoie effectivement à des choses comme celle-là. Oui, d'un coup, on est en plein dans ce rêve.
La place de la musique, Julia Mianzitieri, ça fait partie, on aurait pu parler de, j'imagine aussi, de la lumière. Enfin,
tout à fait.
Quelle place les défilés ont-ils? On parlait tout à l'heure des shootings. Bon, ça, ce sont des moments auxquels vous avez eu accès dans votre enquête, mais qu'on ne voit pas. Mais les défilés, en revanche, ce sont des performances produites pour un public, certes restreint.
Il y a deux échelles, quelque part. Moi, je n'ai pas eu accès aux défilés parce que Ben parce que c'est un monde, comme vous le dites, c'est un cénacle très restreint. Il y a ces deux échelles qui sont aux antipodes quelque part. Donc le parterre qui est là, présent physiquement, et puis ben, ces images qui circulent souvent en boucle, si on pense aux télé, fashion télé, etc. Là, du coup, à l'échelle globale, de manière permanente. Donc effectivement, il y a encore une fois une autre dimension qui, selon moi, mérite d'être analysée dans la mode, qui est le temps, les temporalités qui se croisent et qui participent à la production de ce rêve, et que c'est quelque chose que j'aimerais investiguer par ailleurs par la suite. La musique, ben, dans ce que moi j'ai pu observer, elle était aussi très importante. C'est-à-dire que dans les shootings, il y avait souvent des chutes de l'adrénaline, hein, cette adrénaline que l'on doit performer dans ces univers-là. Il y a beaucoup de... on n'en a pas parlé, mais certes, il y a la surveillance sur le corps et l'apparence, mais il y a vraiment une véritable fabrication de soi qui est exigée dans ces mondes-là. C'est une règle implicite. Il faut être... Non seulement il faut être là, il faut être d'une certaine manière pour être là. Et notamment dans les shootings, ben, souvent, lorsque l'énergie n'était pas assez forte, on va dire, ben, on mettait de la musique. Mmh. Ou les mannequins demandaient de la musique pour pouvoir performer, bouger ce rêve-là.
Pardon. Oui, c'est-à-dire que sur les shootings, de ce que j'ai pu voir, c'est vrai que la musique joue ce rôle comme ça de stimulant, qui participe vraiment à cette mise en scène. Elle est d'autant plus présente dans les défilés qu'elle marque vraiment le ton et qu'elle est censée donner la première impulsion à l'histoire. Quand, par exemple, vous assistez à un défilé le matin à la première heure, à 8h ou 9h, et que d'un coup, vous avez une musique qui est une musique de club techno très dure, d'un coup, vous êtes transporté ailleurs et ça participe aussi à cette hypnose.
Absolument.
Joseph Gosse, j'imagine que vous avez appris moins de choses que moi dans ce livre.
J'ai appris beaucoup de choses.
Voilà.
Mais je voulais savoir lesquelles. Ça a conforté beaucoup de choses. Ça a conforté beaucoup de choses, effectivement, sur la circulation, sur le rêve, sur le désir, et sur le fait que, effectivement, les gens sont prêts à lâcher beaucoup pour être dans ce monde-là. Et moi, je le vois un peu tous les jours, même si je suis du côté des journalistes et que je ne suis pas dans la production de vêtements. Mais évidemment, je le vois, et je le vois parce que dans mon journal, il y a des journalistes, mais aussi des stylistes qui fabriquent les images que nous publions. Et je vois que certaines d'entre elles, notamment les plus jeunes, ou en tout cas celles qui ont envie de venir travailler avec nous, elles sont prêtes à beaucoup. Elles sont prêtes à beaucoup lâcher, à beaucoup sacrifier, notamment le temps, l'argent, beaucoup de larmes aussi. Donc, il y a une forme de violence comme ça qui est quasi immédiatement acceptée. Et c'est ça qui, moi, me fascine assez souvent, c'est pourquoi autant de lâcher de soi.
Julien Mency-Thierry, vous avez la réponse.
J'ai des pistes de réponse. Ben, c'est une question que, évidemment, je me suis posée. Il y a, je pense, différents facteurs. Ben, je dirais que pourquoi, ben, on peut l'expliquer par la puissance de ces imaginaires-là et par les valeurs, si on peut dire, que le capitalisme néolibéral actuel a érigé comme les siennes, c'est-à-dire la beauté, le pouvoir social, etc., etc. Donc avoir une place, c'est un peu ce qui est émergé. Pourquoi ? Parce que on a une place désirable. On a une place désirable dans le monde social. On se construit en tant que sujet, en tant qu'individu, et c'est un peu ce que l'on cherche, je dirais, dans le travail, de manière générale, dans certains types de secteurs professionnels.
C'est vrai que, pour avoir vu aussi le monde de la musique, par exemple, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme vous le racontez dans votre livre, le monde de la mode est une loupe. Et tout ça est vraiment poussé à l'extrême. Et le fait d'avoir une place, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que quand vous arrivez, effectivement, dans ce cénacle dont on parlait tout à l'heure, qui est le défilé, c'est là où les places sont les plus rares et sans doute les plus chères. Vous avez une place.
Le protocole est très réglé.
Oui. Alors, le protocole est implicite.
Oui.
Le protocole est implicite. Tout est toujours implicite. Mais une fois que vous l'avez intégré, mais il faut l'intégrer. C'est-à-dire que personne ne va vous donner les clés, les codes. Personne ne vous les donne. C'est-à-dire vous, si vous avez la chance de vous retrouver là, moi je m'y suis retrouvé aussi un peu par chance il y a une dizaine d'années, personne ne vous explique. À vous de vous débrouiller avec la place qu'on vous attribue, avec le regard que vous avez, etc. Et effectivement, votre place, elle commence souvent derrière, et puis petit à petit, vous vous approchez du premier rang. Et plus vous approchez du premier rang, plus effectivement vous êtes
sous les réflecteurs aussi.
Oui, tout à fait, sous les projecteurs. Et plus vous êtes haut dans la hiérarchie, parce que c'est un monde qui effectivement est extrêmement hiérarchisé.
Exact.
Dans tous les secteurs, que ce soit à l'intérieur des maisons de couture, dans les magazines, entre stylistes. Vous avez des stylistes, évidemment, vous parlez de ce secteur qui est saturé. Beaucoup de personnes, enfin, veulent en être, mais finalement, il y en a très très peu qui arrivent au sommet. Et les stylistes qui, effectivement, gagnent très bien leur vie, elles sont peu nombreuses à être starifiées, finalement. Mmh. Et souvent, vous les retrouvez là, dans ces premiers rangs, et vous voyez bien cette hiérarchie qui s'établit. Et tenir sa place, c'est quelque chose d'extrêmement important dans ce monde. Tenir sa place et tenir son positionnement. Parce que finalement, et ça c'est une des choses que finalement on m'a lâché au bout de quelques années, on m'a dit mais un défilé c'est un théâtre. À chacun de tenir son rôle. Et chacun a un rôle à jouer.
Et à pas seulement sur le podium.
Ah non, pas seulement sur le podium.
Le théâtre, c'est l'ensemble.
C'est l'ensemble. Et très souvent le spectacle se joue beaucoup plus dans les rangs que sur le
podium. Presque un théâtre inversé.
C'est un théâtre inversé, oui, c'est un théâtre dans tous les sens. Et selon votre place, votre rôle est plus ou moins important, et selon les gens qui sont aussi assis à côté de vous, même si vous êtes au premier rang, tout se joue comme ça. Et de ce point de vue-là, quand vous êtes dans cette position et que vous observez, c'est extrêmement intéressant de voir aussi, de comprendre que vous n'êtes là que parce que c'est une position que vous avez. C'est un job, c'est un métier, c'est votre statut, et ce n'est pas votre personne. Bon, là, très souvent, ça se confond. Et c'est là où parfois ça casse, pour les gens en tout cas.
La métaphore théâtrale, elle est classique dans l'anthropologie. Je pense à Erving Goffman, Julia Mencidieri, mais vous l'avez vu fonctionner aussi.
Absolument. C'est vraiment alors le lieu du spectacle, de la performance, de soi. Donc il y a évidemment cette dimension de géopolitique, je dirais, des rôles de premier rang, deuxième rang, premier rôle, deuxième rôle. Lorsqu'on passe derrière, c'est tragique. Mais il y a aussi une dimension de construction de soi, de performance de soi, d'entretien de la performance, qui est une des règles implicites, pas si implicites, puisque plusieurs travailleurs m'ont dit il y a une assistante styliste qui, dans l'occurrence, ça faisait 2 ans qu'il travaillait gratuitement et qui avait lâché un CDI dans un théâtre pour être là dans la mode, qui me disait, tu cherches un personnage et si tu vois qu'il fonctionne, tu dois le tenir. S'il marche, tu le tiens. Et Mia utilise cette métaphore qu'elle a inventée. Dans ma vie, je suis oiseau de rivière et dans mon travail, je suis oiseau de bois, je ris, je suis toujours fausse, elle me dit. Je suis tout le temps fausse. Ce qui est très intéressant mais ce qui implique aussi une violence, parce que si on doit remarquer une constante dans la mode et qui est aussi une constante de toutes ces industries-là en général, c'est bien le manque de séparation entre l'individu, le sujet et le sujet qui produit, qui travaille. C'est la grande caractéristique, je dirais, de tous ces métiers qui mobilisent la subjectivité, la créativité, les émotions, et où il est très très difficile d'établir cette frontière-là entre la vie sociale qu'on a choisie, entre la vie sociale qu'on doit faire pour rester là, tenir sa place, se faire voir, se montrer, circuler, etc., et qui sont, selon certains théoriciens, à l'origine des nouvelles formes d'aliénation.
Joseph Gosne, il y a une question qui me venait en lisant Julien Mencidieri, c'est celle de la place au fond des médias. Alors, les titres sont anonymisés pour protéger les sources, comme souvent en anthropologie, mais au fond, vous qui connaissez bien le monde de la culture et celui de la mode, comment on peut comparer les deux dans, je dirais, l'aspect de coproduction qu'il peut y avoir entre producteurs culturels ou de mode et médias?
Je crois que les attentes ne sont pas les mêmes. Et par exemple, dans ma rédaction, comme je disais tout à l'heure, j'ai des journalistes et j'ai des stylistes. Et les deux, finalement, ne font pas le même travail. Mes journalistes sont là pour faire des articles, recueillir des informations, faire de la critique dans leur page, etc. Ils font un travail de journaliste qu'on pourrait voir dans un quotidien, par exemple, dans un magazine qui ne traiterait pas de mode. Ceux ou celles qui sont stylistes, qui sont censés produire des images, ont déjà un discours et un positionnement un peu différent, puisqu'ils disent « nous produisons des images, nous faisons des images ». Et il n'y a rien de plus subjectif qu'une image. Et donc, elles sont dans cette idée-là. Et ça vire très vite à un discours qui est de l'ordre de l'artistique. C'est-à-dire, nous sommes des artistes. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes dans ma position, c'est-à-dire de diriger une rédaction, il faut savoir jongler avec les deux.
Donc, des artistes de mode, même,
pour être honnête.
Des artistes de mode qui ne sont pas des créateurs de mode au sens étroit du terme.
Tout à fait. Et je crois qu'une des parts du rêve de la mode, c'est que on peut, à plusieurs échelons, être soi-même artiste. Le photographe est un artiste, la styliste est une artiste, le designer est un artiste, la personne qui dessine l'est aussi, etc.
Mais celui qui enfile le vêtement aussi.
Tout à fait. La mannequin peut l'être. Ou en tout cas, le mannequin, elle participe à cela, et la mannequin est quasiment une actrice. Quand vous avez une bonne mannequin, comme on dit, une bonne fille, on parle de bonne fille, souvent, ben, c'est quasiment le statut que peut avoir un acteur. Donc, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., c'est les mannequins les plus connus sont aussi starifiés que des grands acteurs ou de grandes actrices.
Voire davantage.
Voire davantage, oui, tout à fait. Parce qu'ils sont suivis, parce qu'effectivement, cette part de rêve, elle participe, elle a été amplifiée, je l'ai vu dans ces dernières années, elle était vraiment amplifiée par les réseaux sociaux, et Instagram notamment, qui est cet endroit où vous produisez des images en permanence, a totalement participé à cela. Et donc, on est dans cette recherche permanente.
Mais est-ce qu'on ne peut pas encore aller un cran plus loin, Julia Mencitieri, et dire au fond que même la personne qui achète un vêtement et le porte, et pas forcément un vêtement de haute couture, de prêt-à-porter, participe de la création de cet univers avec cette part artistique dont parlait, alors plus ou moins selon les gens, mais les gens investissent aussi une part d'eux-mêmes dans le fait de porter certains vêtements. Et finalement, c'est peut-être ça qui explique comment ça tient. C'est-à-dire que si ce rêve n'était pas partagé in fine par les consommateurs, tout s'effondrerait du jour au lendemain.
Absolument. Bah, c'est clair qu'il faut... Il faut adhérer à ce rêve-là. Bah,
il faut y croire.
À tous les et l'acheteur, c'est celui qui, à sa manière, à son échelle, va performer comme le mannequin ce rêve-là. Évidemment, on parle d'une autre échelle, mais il y a toujours, je pense, lorsque on achète un produit, ben, on s'identifie, lorsque il s'agit d'une marque, en tout cas, avec l'imaginaire de la marque, avec lequel on a envie de s'identifier. Et ceci marche autant pour les consommateurs que pour les travailleurs. J'ai interviewé plein de stylistes qui me disaient « Je veux travailler pour cette marque-là. Pourquoi ?» Parce qu'ils s'identifient avec l'imaginaire de la marque. Ce n'est pas que une question esthétique du vêtement en lui-même. Hein. Je veux dire, c'est pour ça que le rêve marche. Et dans le livre, j'ai utilisé Gramsci, cette idée de l'hégémonie. Il y a quelque chose de très fort qui est là et qui fait que les gens adhèrent, même depuis l'intérieur, qui connaissent le fonctionnement. Ce n'est pas une question de ne pas connaître. À certaines échelles, peut-être, un vendeur ne connaîtra pas tout le système de la mode, mais un styliste, probablement que oui. Et pourtant, il est là, il est capable de voir, d'écrire, même d'énoncer certaines choses, mais...
Oui, je n'ai jamais vu des gens désirer autant de vêtements que des stylistes. Le désir est le plus fort chez elles et chez eux. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une production de vêtements, ensuite une production d'images dans la publicité et aussi dans les magazines, avec une réappropriation dans les magazines, mais tout de même une production d'images. Et tout ça fait que, oui, le désir est très très fort. Et que ce que j'ai vu dans ces dernières années, c'est qu'il y a eu un passage de l'identification qui se faisait souvent sur des choses comme le rock, la pop, etc., à des marques. Et ça, j'étais frappé il y a quelques années dans la chambre d'une fille de mes amies, une adolescente. Au lieu d'avoir des posters de groupe chez elle, elle avait affiché des sacs de marques. Et c'est là où on comprend que oui, le désir est là et le consommateur participe de ça. Et le rêve est là.
Merci Joseph Gosne, merci Julia Mencitieri. Julia Mencitieri, je rappelle que vous êtes l'auteur de Le plus beau métier du monde dans les coulisses de l'industrie de la mode, une enquête d'anthropologie qui paraît aux éditions La Découverte. On trouve la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les idées, où vous pouvez réécouter l'émission, où vous pouvez également vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la technique Claude Niort, à la réalisation Anne-Laure Chanel. Dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.